Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Noëlla Luzituka Bambi.
Considérant le fait que la résurrection de Jésus est la réalisation d'une promesse longtemps attendue, d'aucuns se demandent si Dieu a oublié sa fidélité envers la RDC, mais il n'en est rien. C'est le message de la Conférence nationale épiscopale du Congo à l'occasion de la Pâque ce dimanche. Une question d'actualité adressée au président de la CENI, le député national Jean-Baptiste Kasekwa l'a déposé hier au bureau de l'Assemblée nationale. L'élu de Goma évoque plusieurs défis d'accès à la carte d'électeur dans les provinces de la 3e ère opérationnelle. Jacques Tchikourou est notre invité. Il est le directeur provincial de l'ONAPAC, Office national de produits agricoles du Congo dans la province de la Tchopo. Bonjour à tous. Chers frères et sœurs, la résurrection du Seigneur nous concerne dans la mesure où elle ouvre l'espérance en notre propre résurrection. Malheureusement, chez nous à RDC, notre espérance est mise à l'épreuve par la situation tragique dans laquelle se trouve notre pays, où le spectre de la mort s'installe de façon durable depuis quelques décennies. Considérant le fait que la résurrection de Jésus est la réalisation d'une promesse longtemps attendue, d'aucuns se demandent si Dieu a oublié sa fidélité envers la RDC. Loin de là, la Pâque est effectivement sémence de vie. La résurrection du Seigneur renferme la promesse d'un monde nouveau. Cette déclaration est contenue dans le message de la Conférence nationale épiscopale du Congo à l'occasion de la Pâque ce dimanche. On écoute Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, dans cet extrait proposé par Alain Irung.
La RDC, ce pays abondamment servi par le Créateur pour que ses filles et fils vivent dignement, sortira de son état grabataire actuel si et seulement si ceux qui le gouvernent le font dans la crainte de Dieu en ne visant que le bien de tous et non les intérêts personnels. En cette année électorale, la responsabilité de chacun de nous est engagée pour faire des choix judicieux, objectifs, des personnes capables de former des coalitions, non pas des prédateurs, mais des hommes prêts à se sacrifier pour servir Dieu en servant le prochain. Que la lumière du Christ ressuscité éclaire chacun de nous, gouvernants et gouvernés, pour que nous courions dans la bonne direction, celle de la vie en abondance, avec le Christ ressuscité. Joyeuse Pâque.
Pour sa part, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a appelé les Congolais le samedi 8 avril dans son message de Pâques lu dans les paroisses à œuvrer pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays et dans le territoire de Kwamout. Il a aussi dans le même message appelé à faire échec aux velléités de la balkanisation de la RDC. Il invite les compatriotes à cultiver un esprit de cohésion et d'unité et à refuser toute loi qui a tendance à diviser les Congolais, notamment la loi Tchiani. À Beni au Nord Kivu, la fête de Pâques est célébrée ce dimanche entre joie et tristesse. Le contexte sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire national demeure en effet la principale préoccupation des populations. C'est ce que déclarent de nombreux chrétiens rencontrés ce matin par notre reporter sur place en pleine célébration de cette fête chrétienne qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Sadiq Aboubakar.
La ville de Beni est plutôt calme ce dimanche de Pâques. La circulation est moins intense que d'habitude dans un climat plutôt humide. Au niveau des églises protestantes et catholiques où nous nous sommes rendus, la messe de Pâques est célébrée comme d'habitude. C'est le cas à l'église catholique de Madrandélé, dont la commune de Moulekira, où parents, enfants, jeunes et personnes de troisième âge prennent leur place. Cependant, ces fidèles disent célébrer la Pâque en ayant une pensée pour toutes les victimes du massacre des ADF et autres groupes Maïmaï dans la région.
Nous fêtons dans un climat de chagrin parce qu'il y a nos frères et sœurs qui ont désiré fêter avec nous, mais qui ont été lâchement abattus par les ennemis de la paix de chez nous.
Mais malgré la menace permanente que constitue la présence de ces groupes armés dans le milieu, ces fidèles qui semblent s'être faits à cette situation affirment ne plus avoir peur. Maître Rigen est pianiste.
État chrétien, nous ne pouvons pas avoir peur. Si nous mourons dans des églises piégées, nous serons fiers parce que nous allons mourir martyrs.
Ariel est âgée de 6 ans. Accompagnée de sa mère et sa jumelle, elle dit avoir une intention pour cette prière.
Je suis venue prier.
Tu es venue prier pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui c'est la fête des Pâques et qu'on ne tue pas les gens.
Béni. Sadiki Aboubakar, Radio Kapi.
Le député national Jean-Baptiste Kasekwa a déposé hier, samedi, au bureau de l'Assemblée nationale, une question d'actualité adressée au président de la CENI. Dans sa correspondance à Denis Kadima, numéro 1 de la centrale électorale, l'élu de Goma évoque plusieurs défis d'accès à la carte d'électeur dans les provinces de la troisième ère opérationnelle. Il évoque aussi le meurtre de deux requérants au Nord Kivu, consécutifs à des actes de corruption pour l'accès à la carte d'électeur qui ont été enregistrés. On écoute Jean-Baptiste Kasekwa expliquer les motivations de sa démarche. Il est au micro d'Alain Hirung.
Je voudrais qu'il nous explique pourquoi la CENI a décidé d'octroyer un délai d'environ 50 jours pour les provinces de la zone opérationnelle 1, alors que l'enrôlement a duré jusqu'à plus de 75 jours pour les provinces de la zone opérationnelle 1. Pourquoi la CENI a passé commande des kits dont la capacité est de 45 enrôlés par jour par kit, alors qu'en 2017-2018, la CENI avait utilisé des kits qui étaient capables d'enrôler 200 personnes par jour. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui les cartes d'électeurs s'effacent facilement et quelle garantie la CENI donne pour nous assurer que celles dont les cartes se seront effacées auront des duplicata leur permettant de voter à la date de scrutin. Le président devrait également nous expliquer qu'est-ce qui explique la disparité dans la distribution des kits. Qu'est-ce que la CENI prévoit pour les territoires de Beni, de Masisi, de Rutshuru, où l'enrôlement est systématiquement bloqué du fait de l'activisme des ADF.
Le torchon brûle encore entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu, les deux opposants, leaders du présidium de la coalition Lamuka. Nouvel élan, le parti de l'ancien premier ministre Adolphe Muzito, dans une déclaration faite ce dimanche, dit prendre acte de la rébellion de Martin Fayulu et son parti Essidé contre la convention de Lamuka. Cette réaction intervient au lendemain de la conférence de presse de Martin Fayulu, qui a confié la présidence tournante de cette plateforme au professeur Mathieu Kalele, en lieu et place d'Adolphe Muzito. On écoute à cet effet Albert Mukulubundu, porte-parole de Nouvel Élan, au micro d'Alain Irung.
9 jours après, M. Martin Fayulu n'a toujours pas présenté à l'opinion la preuve du retrait de M. Adolphe Muzito et de son parti de la plateforme Lamuka, justifiant leur exclusion par lui de celle-ci. Bien au contraire, M. Martin Fayulu, après avoir unilatéralement et frauduleusement coopté au présidium de Lamuka, son ami Mathieu Kalele, vient de procéder ce samedi 8 avril 2023 à la passation du pouvoir en faveur de celui-ci comme coordonnateur de Lamuka en violation de sa convention. De ce qui précède, Nouvel Élan prend acte de la rébellion de M. Martin Fayulu et de son parti Essidé contre la convention de Lamuka. Nouvel Élan organise le mardi 11 avril 2023, jour prévu pour la passation du pouvoir, une cérémonie du constat de l'auto-exclusion de Lamuka de M. Martin Fayulu et de son parti Essidé pour assurer la reprise de la coordination de Lamuka. En marge de cette cérémonie, Nouvel Élan organise un point de presse à l'intention de l'opinion nationale et internationale.
Les travaux sur les sites retenus pour les 9e Jeux de la Francophonie à Kinshasa sont à environ 80% d'exécution. C'est ce qui ressort de la tournée d'inspection que le président Félix Tshisekedi a effectuée hier samedi dans les différents sites pour s'imprégner de leur niveau d'avancement. Il s'y est de rappeler que les 9e Jeux de la Francophonie sont prévus au mois de juillet de l'année en cours. Lesho Alassa retrace le parcours d'inspection du chef de l'État.
Selon la cellule de communication de la présidence, au stade des martyrs, Félix Tshisekedi a pris le temps de se faire expliquer maquette à l'appui les ouvrages déjà réalisés avec le concours de l'agence congolaise des grands travaux ACGT. Sur ce site, le président de la République a inspecté tour à tour le gymnase et le stadium de basketball réhabilité. Pour le premier ouvrage, il s'agit des deux terrains réservés aux compétitions d'une capacité de 3000 et de 2000 places. Ici, les travaux sont exécutés à 80%. Il resterait l'installation de la climatisation centrale. D'ici fin mai au plus tard, tout pourrait être fait, a confié un des prestataires. À l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance, le chef de l'État a visité quelques hommes destinés à l'hébergement des athlètes. Le niveau d'exécution des travaux avoisine 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles sur les 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Aux côtés du chef de l'État, on pouvait apercevoir le Premier ministre Samalou Kondé, le ministre en charge des infrastructures Alexis Guizaro, le ministre des Sports François Kaboulo, ainsi que le gouverneur de Kinshasa Gentili Ngobila.
Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, poursuit son séjour dans la province du Sud-Kivu. Ce dimanche, il est allé communier avec sa base de Walungu dans une messe à la paroisse catholique Sainte-Bernadette avant de rentrer demain lundi à Bukavu pour se faire enrôler en Bobero. Hier, à son arrivée à Bukavu, pendant la soirée, Vital Kamerhe a conféré devant une foule immense qu'il attendait à la place de l'indépendance durant toute la journée. Jean Kassami nous propose l'essentiel de son discours.
Vital Kamerhe a annoncé qu'il était porteur d'une somme d'argent débloquée par le gouvernement pour la réhabilitation urgente des tronçons routiers en dégradation très accentuée sur la RN2 au niveau du lycée Wima et la RN5 dans la plaine de la Ruzizi sur le pont Kenge à Sangé. Néanmoins, le montant n'a pas été révélé, moins encore la qualité ni le kilométrage des travaux à exécuter. S'agissant de l'enrôlement des électeurs, dont le processus tend à sa fin alors que les requérants se rangent encore en file indienne devant plusieurs bureaux, Vital Kamerhe promet de plaider auprès de la CENI pour une deuxième prolongation afin que tout le monde soit servi. Kamerhe promet aussi des réformes fiscales profondes en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Il compte mettre son séjour à profit pour échanger avec les opérateurs économiques du site Kivu. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Assurer aux ménages et aux communautés défavorisées un accès aux infrastructures socio-économiques de base d'une part et fournir des opportunités génératrices des revenus aux agriculteurs et autres jeunes de l'espace Lega. C'est l'un des objectifs poursuivis par la fondation Luhusu Lega qui a vu le jour hier ici à Kinshasa. La fondation Luhusu Lega est une structure qui réunit essentiellement les ressortissants Lega de Kinshasa et de la diaspora. Selon son secrétaire permanent, cette fondation a été créée pour faire face au fléau qui ruine la communautés parmi lesquelles la pauvreté. Chérubin Mweneluata le dit à Paul Matendo.
Les objectifs sont plus ou moins simples. Premièrement, c'est de mettre en place les mécanismes d'accompagnement et de soutien aux femmes et aux jeunes, aux agriculteurs pour renforcer leur inclusion et leur autonomisation financière pour lutter contre la pauvreté. Deuxièmement, créer un cadre permanent de dialogue et de concertation avec l'implication des autorités coutumières et les leaders communautaires de l'espace Lega afin de promouvoir une culture de paix, la cohésion sociale entre frères et sœurs. Je prendrai encore un autre objectif, c'est de contribuer aux actions de solidarité envers les couches de populations défavorisées de l'espace Lega. Enfin, sensibiliser la jeunesse, où qu'elle soit, afin de contribuer à la construction d'infrastructures sociales, économiques et culturelles pour la promotion des aspects socio-économiques ainsi que culturels.
Groupe 100, groupe autonome des 100 femmes, leader du monde entier, soutenu par les champions et 100 présidents des pays, pour un puissant plaidoyer, une sensibilisation et un impact au sein des gouvernements et des organisations pour qu'un avenir égalitaire s'implante en RDC. La conseillère du chef de l'État et coordonnatrice du service spécialisé en charge de la jeunesse, la violence faite à la femme et lutte contre la traite des personnes, Chantal Yelumulop, a réuni hier ici à Kinshasa près d'une centaine de femmes engagées dans la promotion de la parité pour définir des grandes actions à initier au pays pour s'aligner sur la voie des objectifs du réseau G100. C'est notamment fournir un leadership éclairé sur ce qui doit être fait pour l'inclusivité, la sécurité, l'autonomisation économique et sociale des femmes dans le monde en comblant les écarts entre les sexes et en atteignant la parité entre les sexes au cours de cette décennie. Chantal Yelumulop en parle au micro de Billy Ivan Lutumba.
En tant que G100, nous sommes là pour pouvoir mettre en place des programmes d'accompagnement sur le terrain que nous devons discuter entre nous parce que c'est un travail commun entre femmes. Les femmes, c'est vrai qu'elles ont été sélectionnées, mais ces femmes-là, elles sont venues vers le G100 parce que ce sont des femmes qui prennent les autres entre les bras pour pouvoir monter. Quand il y en a une qui tombe, l'autre est là pour relever. Pour le moment, nous travaillons sur le Women Economic Forum, le forum économique de femmes qui va avoir lieu en 2024. On va impliquer certains ministères ministère, mais aussi les femmes du G100 qui vont s'impliquer pour pouvoir mettre en place ce forum mondial pour toute l'Union africaine. De l'autre côté, nous allons accompagner le président de la République au niveau international pour tout ce qui est masculinité positive en organisant des activités masculines. Et chacune des femmes du G100 peut organiser une activité sur la masculinité positive. Mais l'autre chose aussi, nous allons accompagner le traité mondial pour en finir avec la violence faite à la femme, où le président de la République a été nommé comme le champion qui va finir la violence faite à la femme et à la jeune fille à travers le monde, pas seulement en RDC.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, l'Office national des produits agricoles du Congo vient de mettre sur le marché local du café produit dans sa concession de Lula, située à 7 km de la ville de Kisangani dans la commune de Lubunga. Selon le directeur provincial de l'ONAPAC, ceci marque le début de la relance du café Robusta à Kisangani. Mais avant l'exposition de ce café sur le marché, le directeur provincial de l'ONAPAC a organisé ce week-end une séance de dégustation avec quelques personnes ciblées. Quel en était l'objectif? Quel est l'état de lieu du café dans la Tchopo? Le directeur provincial de l'ONAPAC, Jacques Chikuru, explique dans cet entretien avec Jacques Moukonkole.
Jacques Chikuru, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est le but poursuivi en organisant la dégustation de votre café?
Merci de la question. Nous avons voulu porter un message fort au public sur la qualité du café que nous voulons mettre au marché. Raison pour laquelle nous avons commencé par la dégustation par les spécialistes que vous avez vus. Nous attendons le résultat, mais déjà au départ, ils avancent que le café de l'ONAPAC est le meilleur.
D'où vient ce café?
Bon, ce café vient de notre plantation. C'est vraiment du café purement bio que nous-mêmes nous avons conduit à la pépinière, que nous avons planté au champ, et après 3 ans nous avons commencé à récolter. C'est le résultat vraiment de grands efforts.
Combien d'hectares avez-vous cultivé et c'est depuis quand?
Nous avons commencé, le premier hectare c'était en 2016. Nous sommes maintenant à 10 hectares, 10 hectares de ce café-là. Mais au départ, nous avions trouvé, nos prédécesseurs avaient déjà fait 5 hectares. On a essayé de les entretenir sans pas tenir. Mais ce que nous avons planté, en tout cas, ça tient très bien. Et voilà le résultat.
Quel est l'état de lieu du café dans la province de la Tchopo?
L'état de lieu, actuellement, c'est décevant, hein, si je peux le dire, puisque les agriculteurs se donnent plus au cacao qu'au café. Il nous faut vraiment travailler beaucoup dans ce sens pour améliorer aussi la culture du café.
Y a-t-il une justification à cela?
Oui, si vous avez suivi mon discours, j'ai parlé de la modicité du prix, d'abord, qui avait affecté à l'époque la promotion du café. C'est-à-dire, il y avait d'abord un dégoût par rapport au prix. Ensuite, une maladie qui avait attaqué toutes les plantations du café, la trichomycose, avait ravagé toutes les plantations.
On peut dire que le café dans la province de la Tchopo ne contribue pas à l'économie de cette entité.
Ça, je crois, on peut l'affirmer. Puisque la grande partie du café qui est consommé ici vient d'Opala, une partie vient de Bumba, une autre partie vers Gemena, vers l'Équateur. Et souvent, quelquefois, ça vient aussi de Beni.
Vous êtes conscient des difficultés. Comment allez-vous procéder pour relancer cette culture?
Bon, nous sommes au stade de vulgarisation. Même nous sommes en train de diffuser les plantilles à certains volontaires. Et nous attendons aussi l'implication du gouvernement dans ce sens. Si vraiment le gouvernement s'implique, je crois que nous pouvons revenir à l'ancienne période où les cafés étaient l'or vert.
Concrètement, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement?
Nous avons tout ici chez nous. Nous avons la terre qui est fertile. Nous avons le climat qui est favorable. S'il y a les moyens financiers, nous pouvons relancer très vite la culture du café. Nous avons des jeunes agronomes qui chôment ici. Ils terminent l'université et n'ont pas d'emploi. Alors, tous ces gens-là, si on arrive à les encadrer, je crois que ça peut marcher. Et puis, vous savez que l'agriculture c'est un domaine très vaste. Qui dit l'agriculture dit les routes. Des dessertes agricoles. Qui dit agriculture dit l'industrie. Il faut des usines, il faut quoi? Qui dit l'agriculture dit l'énergie électrique. Il faut du courant, il faut tout ça. Donc l'agriculture, c'est vraiment un domaine très large.
Là, vous utilisez les paysans ou ce sont vos propres travailleurs qui s'adonnent à cette culture?
À cette question, j'aimerais que vous fassiez un jour une visite à Lula et vous interrogez les gens là-bas. Ils vont vous parler de ce que nous faisons là-bas. Mais pour moi, je vous dis directement que nous utilisons une main-d'œuvre temporaire à Lula. Ce sont des journaliers que nous payons par jour, mais tout en gardant les montants journaliers pour payer à la fin du mois.
Avec quels moyens vous faites tout ça?
Avec nos maigres moyens, nous nous battons. Et comme maintenant nous commençons à vendre les cafés, c'est déjà un pas de plus, nous aurons l'argent pour les payer.
Vos employés ne sont pas pris en charge par le gouvernement?
Bon, avant nous n'étions pas pris en charge, c'est maintenant que nous sommes pris en charge. J'ai félicité le président de la République pour avoir résolu les problèmes sociaux de l'UNAPAC. À travers le DG de l'UNAPAC, les ministres de l'Agriculture, les premiers ministres, ce sont des grands hommes qui se sont investis dans ces dossiers. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons une solution. On nous promet que ces mois ici, nous aurons le rappel de 3 mois.
Alors, quel message pour la population de la Tchopo?
Je demande à la population de Kisangani de consommer notre café et de nous soutenir, d'abandonner la préparation du mauvais café sur le marché, puisque ce café est vraiment nuisible à la santé.
Jacques Tchikourou, merci.
Merci, monsieur le journaliste.